Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos moteurs engagés, Christophe Tillemont, qui nous propose chaque mois un aperçu du sommaire du Moto Magazine. Et aujourd'hui, nous allons parler de celui d'avril. Bonjour Christophe.
Bonjour Lamiche, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, numéro 429, numéro d'avril. Hein, c'est Pâques. Hein, c'est... Et oui, c'est Pâques.
C'est Pâques. Ah oui, effectivement.
C'est pas Noël. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va revenir sur les salons. En fait, il y a toujours des salons. Il y a les salons de fin d'année, il y a Milan. Et puis il y a les salons, c'est le printemps, hein, il y a les salons du début d'année. Donc le salon de Lyon qui titre d'ailleurs le coffre à jouer des motards. Voilà, c'est pas Noël, mais effectivement. Et puis, on pourra parler aussi de Douai, puisqu'on y était, on a fait des belles rencontres. Hein, c'était il y a 3 semaines. Alors, on parlera pas de Reims, parce que j'y étais pas, mais c'est les mêmes organisateurs la semaine dernière. Hein. Et puis, une exposition exceptionnelle, l'épopée du deux-roues, dont on a largement déjà parlé, mais sur lequel je vous donnerai quelques focus. Et puis, je vous parlerai aussi des gens du Nord, parce que c'est l'occasion, en fait, de ces salons, même s'ils ne sont pas dans la région, de mettre en avant les gens du Nord. Et j'ai repéré dans les pages de Moto Magazine quelques repères sur des motards du Nord. Voilà. Et si je vous dis 46, ça vous parle ?
Non.
Non. Bon, alors on va chercher. Et ben, je vous donnerai la réponse.
Alors 46,
tout à l'heure.
Si, alors moi, je pense que c'est l'adresse de notre local. On ne dira pas où, mais...
Ah, bon. Voilà. Alors, un pilote. Et j'en dis pas plus. Alors les jeunes, oui, les jeunes ils connaissent aussi, hein, forcément. Alors
normalement ils devraient le connaître, bon, hein, celui-là.
Un jeune qui a de bons restes, hein, 47, parce qu'il vient de fêter ses 47 ans, Valentino Rossi. Et donc ça me permettra d'évoquer aussi la stratégie des marques, hein, puisqu'en fait les pilotes interviennent auprès des marques et ils sont leurs meilleurs ambassadeurs à certains égards. Voilà. Et je terminerai donc par une petite revue de presse, s'il me reste du temps, pour vous donner quelques sujets, hein, notamment sur les essais, les balades et les rubriques consommotards.
Très bien, merci, voilà, Christophe. Un autre motard engagé, c'est Jean-Yves Balois, le porte-parole de la Fédération française des motards en colère. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Tu vas bien, j'espère ?
Ça, je saurais ça.
Quand... Un petit peu de ta santé aux auditeurs, hein, qui t'écoutent depuis, ouais, des années.
Depuis des années. Depuis des années, j'avais l'habitude d'avoir des hanches qui fonctionnent bien.
Ah,
et puis brusquement, ça ne fonctionne plus. Donc,
c'est avec le temps, tu
un
vois.
Peu, c'est ça. Ouais, c'est la vieille.
Mais ça change.
Ça change, ça change. Pas aussi facilement qu'une bielle, parce qu'une bielle, il suffit de tomber le moteur.
Oui.
Mais là, on ne peut pas s'opérer soi-même.
Et oui, voilà. Et ça, éventuellement, tu saurais le faire à la bielle.
Oui, oh, bah, ouais, c'est le B.A.B.A. quand même.
Voilà. Ça n'affecte pas, bon, les cordes vocales. Et toujours,
oui, voilà, tu pourrais toujours. Ça,
on peut toujours, non, l'entendre.
Tant que la langue marche.
Et, puis, et en plus, tant que la colère est là. Parce
et
que,
la colère, voilà, est là. Toujours, voilà, toujours engagé. Hein.
Alors,
et luttant.
Puisqu'on parlait de Pâques, et ben justement ça donne l'occasion de causer de l'opération de Nidpool qui va se dérouler encore une fois dans toute la France, puisque on a des dirigeants qui sont jugés intelligemment de transférer la responsabilité des routes, des nationales ou autres, sur les communes qui, sans leur donner les moyens d'entretenir le réseau. Donc je ne vous dis pas l'état de décrépitude du réseau et donc l'opération Nidpool. Je vais vous causer aussi de l'Interfil, parce que on sait qu'on a conquis de haute lutte la possibilité de faire de l'Interfil, mais on n'est pas toujours au courant de dans quelles conditions on peut le faire. Et là, vous aurez quelques surprises, ah, notamment, oui, les possesseurs de grosses allemandes avec sacoche, ah, et tout le bazar. Il y a de fortes chances que vous soyez interdit d'interfile.
C'est incroyable, ça.
C'est incroyable. Alors,
j'en reviens pas encore sur cette loi stupide. Voilà. Et voilà, on va parler aussi de l'Assemblée régionale.
Oui, alors là, je me suis friqué personnellement avec Jaco, qui ne comprenait pas pourquoi je lui en voulais. Donc je vous expliquais mon problème. En fait, le problème, ça vient de la gouvernance interne de la Mutuelle des Motards. Parce que dans n'importe quelle entreprise, quand vous avez un turnover dans les classes dirigeantes, c'est qu'il y a un problème. Et là, c'est le cas de l'agence de Lille. Le maximum que faisaient les directeurs d'agence, c'est une année, puis ils partaient ailleurs où ils étaient virés. Donc,
c'est qu'il y a un souci.
C'est qu'il y a un gros souci. Et donc, je vais vous causer de ce problème-là.
Voilà. Et on va en profiter parce qu'on a une interview, justement, de Patrick Jacot, qui a été réalisée le 12 mars au village moto de Seclin. Hein.
Voilà.
Parce que c'était l'Assemblée.
L'Assemblée nationale.
Hein, de,
régionale.
De régionale, hein, de la Mutte. Hein. Parce que d'accord. lui, parce que Patrick Jacot, il fait le tour un peu de toutes les régions.
Bon,
hein.
C'est vrai qu'on peut lui mettre ça à son bénéfice.
Ça, c'est bien parce que on n'a pas. C'est quand même assez rare qu'un directeur général. Président-directeur général fasse le tour hein, de toutes les régions. Hein.
Ce qui n'est peut-être pas tout à fait normal, c'est qu'il soit président, directeur et général. ça me fait penser aux dictateurs sud-américains. En fait.
Alors, et là, on a appris qu'il a été réélu pour un 7e mandat.
Voilà.
Et il va se terminer, il aura 74 ans, Patrick Jacot. Vous imaginez, vous
C'est ce qu'on dit, place aux jeunes.
Voilà, très bien. Voilà, et bien, donc ça, c'est notre programme pour cette émission. Vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com, je vous rappelle. À la technique et la programmation musicale, bien sûr, c'est notre fidèle pilote d'émission, Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. Et à tout de suite, restez avec nous. Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches à partir de 11h. C'est sur Campus 106,6 ou, je vous le rappelle, www.campuslille.com. Jean-Yves, on parle opération Nid de Poule parce que c'est Pâques.
C'est Pâques et justement, on va en profiter parce que vous pouvez participer, vous qui écoutez l'émission, vous pouvez participer à l'opération Nid de Poule organisée par la 59. Puisque ça se tiendra à départ à Seclin à 14h dimanche. Donc, une fois que vous aurez fini d'entendre Kikinkout et Toupal, vous mangez un morceau et vous filez.
Vous mangez ou vous mangez pas, hein, vous faites ce que vous voulez.
Vous faites tout. Ouais, vous pouvez. D'accord. Okay. On va pas être
délicieux. Et on peut pas manger sans sandwich en pilotant.
Non, hein,
non, ça, c'est pas conseillé.
On peut fumer en roulant, mais difficilement bouffer. Enfin bref, donc c'est l'opération Nid de Poule. En fait, c'est tellement bien éclaté maintenant que même les maires, une fois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu le maire de Neuf-Berquin qui hébergeait la FFMC 59, qui disait que c'était abominable parce que sur sa commune, certaines routes étaient sous la responsabilité du département, d'autres de la nation, d'autres sous sa responsabilité à lui. Et donc, lui, il voyait arriver tout le monde qui gueulait parce que l'état des routes était déplorable, mais qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose, à part sur son domaine assez restreint. Et ça, c'est une volonté politique qui a été imposée depuis bien longtemps. On voit nettement que les hommes politiques français, ce qui compte, c'est que l'État se désengage de à peu près tout. Alors, on peut se poser la question, est-ce utile d'avoir un État si il ne s'engage plus à rien ? Donc, pour vous dire, vous avez l'occasion d'assister à l'opération Nid de Poule. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste, en général, il y a toujours un journaliste de la Voix du Nord ou FR3, qui filme, et donc ça consiste à tous les nids de poule, les souligner à la peinture fluorescente, quelquefois déposer un peu de paille parce qu'il faut être gentil avec les poules, et puis poser une poule, ouais. Soit peluche, soit chocolat.
Dans Motomac d'avril, on en parle. Hein. Moi, ce que j'ai remarqué depuis des années, parce que cette opération Nid de Poule, ça dure depuis quelques années.
Ça
fait 10-15 ans.
Ça fait longtemps.
Alors au début, c'était des petits œufs.
Ouais.
Et maintenant, j'ai vu dans Motomac, les œufs de plus en plus gros. Donc ça veut dire que le trou, il devient
plus gros. Le trou est de plus en plus profond.
Tu sais qu'on n'a toujours pas réparé les trous depuis 15 ans, donc ce trou existe.
C'est plus des poules, c'est des autruches.
C'est des autruches.
Non, c'est des ptérodactyles. Parce que c'est suffisamment vieux. Voilà. Non, c'est pour dire que de toute façon, l'année passée, j'avais participé à cette opération-là, en face du grand stade à Villeneuve-d'Ascq. Je ne sais pas quelle est l'entreprise qui a fait ce boulevard, mais manifestement, il n'aurait pas dû faire, parce que dès que le trou est comblé, 15 jours après, il se reforme. Donc, c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois, parce que au départ, c'est vicié. L'infrastructure a été très mal faite. Il suffit de voir que quand il y a de fortes pluies, ça dégorge de partout, les égouts ne refroidissent pas. Donc, vous avez l'occasion de montrer votre mécontentement, faites-le. Alors, ça, c'est pour la 59, donc départ à Seclin, à partir de Seclin, 14h dimanche.
Et pour la 62, c'est trop tard, c'est parti.
Non, pour la 62,
c'était à 11h.
C'est le lendemain, le 6.
Ah, c'est le lendemain, c'est très bien. Alors.
Vous pouvez faire les deux, en plus.
On peut faire les deux, là.
Donc, c'est 11h sur le parking à Arras. Et donc, à chaque fois, on s'arrête sur un nid de poule, on l'entoure, on prend quelques photos et on passe au suivant. S'il y en a.
Et on vient avec des œufs ou quoi? Ou non, c'est la Fédé qui fournit les œufs.
Oui, enfin, chacun fait ce qu'il veut.
Et les œufs sont cuits durs ou quoi?
Non. Les œufs, si on pouvait, on les enverrait sur la gueule des responsables de la voirie. Mais ils sont bien prudents, ils ne se montrent pas ce jour-là. Bon, alors là, je vais passer à un autre sujet parce que il y a beaucoup de possesseurs de grosses allemandes avec sacoches rigides, en alu et tout le bazar, qui vont apprendre une triste nouvelle, c'est que eux, ils n'ont pas le droit à la remontée de fil.
Pourquoi ?
Et pourquoi ? Parce que justement, dans le code de la route, il est bien spécifié que ce sont pour les véhicules inférieurs à la largeur inférieure à 1 mètre de large.
Ah oui, oui, c'est vrai que tu parles de GS, là, les 300 GS.
Avec des sacoches qui débordent de partout.
Alors, on ne sait pas vraiment si ça fait 1 mètre. Peut-être que ça fait 97 cm.
97, ça passe. Vous avez le droit. 1 mètre 1, c'est pas le droit.
Donc, tu n'as pas le droit de faire de l'interfile. Voilà.
Tu n'as pas le droit non plus si tu as un tricycle ou un sidecar.
Ah oui, bien sûr. Mais là, ça paraît évident.
Quads, hein. Les quads non plus. Oui. Donc, ça, c'est... ça, faut le savoir. Donc,
mais par contre, la moto, la GS, effectivement, il y a une inflation dans la largeur des motos.
Oui, oui. Donc, bientôt, on va arriver à mettre une quatrième roue, peut-être. Pourquoi pas. ça a été expérimenté depuis pas mal de temps en France. Ça aussi, encore une fois, suite à des luttes, ça a été reconnu à tout le territoire français. Alors par contre, quand a-t-on le droit de faire du interfile ? C'est pas tout le temps. Donc c'est sur les autoroutes et routes comportant au moins deux fois deux voies, avec un séparateur central. S'il n'y a pas de séparateur central, vous n'avez pas le droit de faire de l'interfile. Et quand la vitesse de croisière se situe entre 70 et 130 à l'heure sur ces voies-là. Donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire l'interfile au-dessus de 50 km/h. Si les fils se déplacent à 51 km/h, vous n'avez pas le droit de faire l'interfile. Ça aussi, il faut le savoir. Et puis c'est entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée. Ça aussi, on ne peut pas faire de l'interfile sur la voie d'arrêt d'urgence.
C'est plus l'interfile, là.
Oui, c'est en général, c'est la voie réservée aux flics. Donc, c'est là où on voit le génie français. Il précise bien qu'on peut faire de l'interfile quand l'espace entre les fils est suffisant pour passer.
Oui, c'est pareil. Ça paraît évident.
Non, mais ça va mieux le dire.
Ça paraît évident, quand même. Oui, effectivement.
Alors, autre chose aussi qui est peu connue, c'est qu'il est interdit de faire de l'interfile, de dépasser un autre deux roues motorisé en interfile. Ça, c'est ouais. Là aussi, c'est pareil. Alors, les Parisiens, moi, je sais que quand je passe à Paris...
C'est un microcosme, quoi, à Paris.
C'est un microcosme.
Pas non plus généraliser Paris à toute la France.
Il y a quand même... Oui, non, mais les Parisiens s'imaginent que Paris, c'est 99% de la France.
Oui, oui,
non,
mais... vous y êtes pas repassé depuis que c'est limité à 50 sur le périph'.
Non.
Même en voiture.
Ah, non.
J'aimerais bien voir ce que ça donne.
Bon. Donc, lorsque le trafic, une des deux files passe au-dessus de 50, vous devez réintégrer votre voie et vous ne pouvez plus faire d'interfile. Et donc, là aussi, c'est un truc complètement aberrant, c'est que le différentiel de vitesse entre vous et les files, donc à l'arrêt, c'est 30 à l'heure. À l'arrêt, c'est facile à voir, puisque si vous roulez à 29 et que toutes les bagnoles sont arrêtées, vous êtes dans la légalité. Par contre, si les bagnoles roulent à 31, vous ne pouvez pas aller au-delà de 50. Hein. Donc finalement, la marge qui était de 30 km heure à l'arrêt, elle est descendue à 20 km heure quand les files avancent.
Moi, j'ai une question, Jean-Yves, parce que là, il y a la voie spécialement réservée pour le covoi d'ouvrage entre Carvin et Lille. Mm-hmm. Il y a la voie qui roule à 110, je crois que c'est limité à 110, oui. Sur la voie de gauche.
La voie des riches, oui.
Je ne sais pas si ça s'appelle ça comment, je ne sais pas. Et puis alors on voit très bien que les deux autres voies, elles sont pratiquement bouchées. C'est l'embouteillage
saturé de camion.
Tous les jours, saturé de camion, forcément. Et donc ça roule effectivement 30 à l'heure. Mais par contre, sur la voie de gauche, ça roule à 110. Alors quelle vitesse on prend? Il faut pas dépasser plus de 30 km heure.
Si vous avez un passager, vous pouvez utiliser la voie des véhicules riches. Si vous n'avez pas de passager, vous devez rester à 30 à l'heure. C'est tout con, mais c'est comme ça.
Ils ont bien pourvu une loi qui doit limiter la vitesse sur la voie de covoiturage.
Alors peut-être. Il y a peut-être des panneaux qui indiquent qu'on a pas le droit. Voilà.
Mais bon, de toute façon, là, en plus.
Et moi, j'ai une question. Là, justement, en métropole lilloise, il y a beaucoup de voies à 70, rien que le périphérique sud, qui est en fait l'autoroute à 25, qui se prolonge au sud de Lille. Donc tout à l'heure, tu as parlé des voies entre 70 et 130. Oui, je ne sais pas bien. Tu peux rappeler.
C'est justement le. On ne peut faire de l'interfil que sur des voies où la vitesse est permise entre 70 et 130. Si vous avez une autoroute qui serait limitée à 50, je ne sais pas pourquoi, pour des travaux ou autre, vous n'avez pas le droit de faire d'interfil non plus.
Ok.
C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Toutes les infos que tu nous donnes, là, ça vient d'une plaquette. Je vois que
c'est une plaquette.
Et c'est édité par la MUT.
Par la FFMC, justement. Oui. Et ça a été distribué. On le distribuait au salon de Douai, un peu partout.
Donc on peut retrouver toutes ces infos sur cette plaquette.
Sur cette plaquette, et ça a été distribué certainement aussi à Lyon. Donc, j'ai à peu près fini le tour de la question. Donc,
très bien.
Faites gaffe parce que justement, souvent maintenant, les flics n'ont pas été formés, évidemment, ce serait trop drôle. Et donc, ils mettent des procès-verbaux plutôt, excusez-moi. Et donc, quand il dit pour être. Un procès-verbal doit, pour être valable, la verbalisation doit caractériser précisément la faute. Or, dire simplement que circulation irrégulière en interfil ne se suffit pas. Et là, si vous avez ça comme prétexte, vous pouvez contester.
Et là, on retrouve l'info dans Motomag d'avril.
D'avril, oui, dans page 22.
Voilà, merci Jean-Yves. On passe un morceau de musique et après, on va parler assemblée régionale et aussi des problèmes de l'agence de Lille.
Voilà.
Than an alley cat, smoking a pipe in a cowboy hat. Take a little hit and pass it around. Jamming with the ghost of Gate Mouth Brown. Thank you.
Bon Jean-Yves, bah je rappelle que tu es le porte-parole de la Fédération française des motards en colère du Nord. Hein.
Et de la FDM.
Et de la FDM aussi.
C'est
ah oui,
surtout là.
Surtout, oui.
Surtout. En plus, disons que là, aux assemblées régionales qui ont eu lieu récemment à Motoblouse, je me suis frité avec M. Jacot, qui est le président dictateur général de la FFMC, de la Mutuelle des motards. Et c'était...
Il est élu, hein. Tu dis dictateur, mais à chaque fois, il est réélu. Septième mandat, hein, quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. Ben, et Poutine a été réélu aussi. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Enfin, bref. Donc, je me suis frité quand même assez fort. Et pourquoi je me suis frité? On m'a regardé assez souvent en disant « Qu'est-ce qu'il a à ramener, celui-là ?» Alors, je reviens un peu historiquement sur les faits. C'est que, en tant qu'AFDM, dans toutes les régions... De France, les motards qui se sentent pas très à l'aise sur leur bécane ou alors qui passent devant une commission sinistre sont aiguillés par la mutuelle des motards vers la FDM pour faire un stage qui leur permet de conduire différemment. Et partout en France, par exemple dans la région PACA, la mutuelle adresse 40% des motards qui passent par la FDM, ils sont adressés par la mutuelle des motards. Ça, c'est bien, c'est chouette. Bon, on dit il y a une synergie entre toutes les pétales de la FFMC. Sauf que dans le Nord, ben non, dans le Nord, c'est 0%. Et c'est ce que j'ai dit à Jacot. Alors là, évidemment, avec sa bonne foi habituelle, elle a dit « Oh ben non, c'est pas, vous n'avez pas le droit de dire ça ». Ben si, moi je m'en tiens aux chiffres. 40% en PACA, 0% dans le Nord. Pourquoi? En fait, ce qu'il n'a pas voulu reconnaître, c'est qu'il y a un gros malaise à l'Assemblée, à l'agence de Lille. C'est que le chef d'agence fait rarement plus d'un an à son poste. Et puis, soit il démissionne, soit il fout le camp, soit... Donc, un turnover d'un an dans les cadres dirigeants d'une entreprise, moi, j'appelle ça une entreprise mal gérée. Alors là, ça l'a vexé encore plus. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, j'attaquais en disant comment ça se fait que la mutuelle des motards ne nous aide pas plus. Parce que l'année passée, on a dû supprimer un stage parce que pas assez de stagiaires. Donc, voilà.
Ça veut dire que tout simplement, on ne communique pas sur les bureaux de la MUT à Seclin, ne communique pas, ou dans le Nord, ne communique pas sur la FDM.
Dans
alors,
le Nord,
qu'en région PACA, c'est l'inverse, c'est ce que tu veux dire.
C'est exactement l'inverse, oui.
C'est qu'on propose à chaque fois un stage de formation.
Justement, il y a le mouvement Rocky là, pour accueillir les nouveaux motards. Systématiquement, dans les autres agences, il y a une introduction, il y a un renseignement sur la FDM. Vous pouvez, si vous estimez que vous ne savez pas bien conduire ou autre, aller voir la FDM. Chez nous, non. Et pourquoi? Parce que jamais aucune politique à long terme n'a pu se former, parce que les chefs d'agence changeaient tout le temps.
Voilà, bah, écoute, Jean-Yves, moi j'ai l'honneur de t'annoncer que nous avons un interview
de
Patrick Jacquot, président et directeur général de la Mutuelle des Motards, hein, voilà. qui a enchaîné sur son 7e mandat. Hein. Oui, donc c'est une interview qui a été réalisée jeudi 12 mars au village moto de Seclin. T'étais là, de toute façon.
J'étais là, je me suis engueulé avec lui.
Mais tu débarrais après. Mais après, on a fait l'interview. Ah, ouais. Donc on va aussi lui donner la parole.
Patrick, enchanté de te rencontrer. Alors, je vais te présenté aux éditeurs de Radio Campus Lille, tu es le président directeur général de la Mutuelle des Motards.
C'est ça.
Tu es pratiquement l'icône.
Je suis dirigeant de la Mutuelle.
Dis-nous depuis quand tu es président de la Mutuelle.
Alors, je suis président depuis 1995 et je suis président et directeur général permanent. L'automne 2001.
C'est ce que tu nous as expliqué durant cette réunion aujourd'hui, ce soir. Voilà. Et donc, je voulais poser une question. Est-ce que la Mutuelle, en 2026, se porte bien?
Alors, en 2026, on aborde 2026 avec beaucoup d'ambition et beaucoup de projets, et notamment un projet centré sur la prévention qui veut impliquer les sociétaires. On va sortir, au moment de l'Assemblée Générale, le 13 juin prochain, on va sortir une appli. Une appli qui a vocation à être vraiment personnalisé pour chacun des sociétaires, avec des informations qui concernent leur type de pratique, le type de bécane qu'ils ont et leurs besoins. Sachant que on peut se faire ça parce que c'est vrai que on a décidé l'année dernière de centrer la stratégie sur la prévention. C'est ce qu'on fait depuis l'origine, mais là on a voulu que ce soit vraiment la ligne directrice de tout ce que l'on entreprend et que ça concerne et que ça embarque, ça implique tous les métiers de la Mutuelle, sans exception. La compta, la direction informatique, l'indemnisation, etc. Voilà. Et sachant que on sort à l'Assemblée Générale le 13 juin prochain, on va faire le point sur l'année précédente, sur l'année 2025, qui est pour la Mutuelle une relativement bonne année. D'accord. Sur une même dynamique commerciale que l'année 2024, qui était vraiment une bonne année, alors que le marché de la moto en 2025 était plutôt tiédasse.
C'était pas
terrible. Les concessionnaires, les acteurs font pas le même commentaire que nous, et on a conscience de ça parce qu'on est vraiment bien connectés au monde de la moto et surtout aux motards.
Alors là, tu as été réélu pour 6 ans encore, je crois.
L'année dernière, j'ai été réélu pour 6 ans.
Donc ta fonction va se terminer dans... Et tu auras 74 ans.
En 2031.
En 2031,
c'est... À la fin de mon mandat, j'aurai 74 ans.
C'est la fin de ton mandat, et là, tu termines.
Mon dernier mandat. Voilà, c'est le mandat de transmission, de passation.
Voilà. Est-ce que c'est pas trop long quand même pour passer... d'avoir passé autant de temps pour la Mutuelle des Motards?
D'abord, c'est un engagement de vie. Hein. Le projet de la Mutuelle, c'est un projet unique. Donc, c'est un projet qui se fait. C'est un projet collectif. Voilà, ça repose sur les acteurs, les salariés, les bénévoles, le conseil d'administration. C'est un collectif aussi. Et puis, c'est un projet qui associe les sociétaires. Donc, ce soir, par exemple, d'avoir une assemblée régionale aussi vivante que ce qu'elle a été avec les motards du Nord, ça, c'est ça l'énergie qui nous est fournie et dont on se nourrit. Et moi, le premier, c'est pour ça que je suis attaché à venir dans le Nord, d'ailleurs.
Il te faut un sacré courage parce que, là, c'est l'assemblée régionale, mais tu ne viens pas que dans le Nord, hein, tu te fais toutes les régions.
Ah non, j'ai fait Amiens hier soir. Et puis j'en ferai.
Pour le PEPS, alors, pour faire tout ça,
voilà,
pour
voyager.
Et puis voilà, et pour se déplacer.
Mais sachant que c'est effectivement sur ce dernier mandat, c'est un mandat de passation, de transmission, etc. Et c'est important de faire les choses correctement, de le faire avec méthode et de garder l'esprit qui est celui de la Mutuelle. Après, la suite, il y en a qui prendront la relève et ils feront ce qu'ils ont envie de faire, mais s'ils le font avec le bon esprit.
Tu penses que tu vas y arriver?
J'en suis certain, parce que d'abord, je suis pas seul. Je suis pas seul.
Les rênes à quelqu'un d'autre.
Oui, bien sûr. Oui. Voilà, bien sûr, bien sûr. C'est important faire. Et de le faire avec méthode et de le faire en essayant que ce soit une continuité. Ouais. Non pas pour faire la même chose, mais pour être sur les mêmes rails et tout cas pour garder cet esprit qui est notamment le lien avec les sociétaires et le lien direct avec les sociétaires.
Il y a une bonne idée dans l'esprit, hein, c'est ces fameuses maisons motardes.
Les maisons des motards.
La maison des motards.
Que ce soit un lieu qui soit fréquenté par les sociétaires,
oui.
qui passent.
Tu nous expliquais un peu, tu fais un parallèle avec les bistrots.
Exactement.
Un bistrot, voilà.
Exactement. Que le même, que ce qui se passe dans ces maisons des motards, eh ben, que ce soit de même nature que ce qui se passe dans les bistrots. Et qu'il y a la même convivialité, qu'il y a la même envie, tiens, d'y passer, tiens, je m'arrête, j'ai pas besoin de, de changer mon contrat ou quoi que ce soit, mais je passe parce que d'abord, je vais rencontrer des salariés, des bénévoles, d'autres motards, des sociétaires.
On comprend que c'est intéressant quand même pour la mutuelle.
Bah oui.
Bien sûr, hein,
parce que
c'est de rencontrer.
Ça,
les, c'est aussi les gens de la mutuelle. Oui.
Et ça, c'est le reflet. Ouais. C'est le reflet de notre ancrage dans le monde de la moto. Il faut savoir que la mutuelle, elle a été créée par 40 000 motards qui ont pris leur destin en main. Eh bien, ces maisons des motards, c'est la traduction de ça. 43 ans après la création, alors qu'ils ne nous donnaient pas 6 mois au début. Hein.
Oui, c'est ce que tu nous as dit. Hein, parce que moi je suis aussi. J'ai donné mon obole il y a 43 ans. Hein,
exactement.
J'ai aussi,
merci donc, d'ailleurs, parce que c'est grâce à des gens comme toi.
Oui, bah, bien sûr.
Voilà. Voilà, on n'était pas sûr que ça marche. Hein.
Bah non, on n'était pas sûr. Hein, et donc, forcément. Mais on en avait besoin, effectivement.
Voilà.
Et donc, oui, tu nous as dit que les autres coureurs pensaient que effectivement, la mutuelle ne tiendrait pas plus de 6 mois.
On n'était pas des pros de la.
Voilà. Et là, on est en 2026, et apparemment, les chiffres 2025 sont pas bon, trop mauvais. Hein.
Sont bons, comme on maîtrise les risques. Hein. Voilà, on maîtrise les risques, on fait un excédent.
Oui.
Cet excédent, il va alimenter les fonds propres, on consolide la mutuelle, et on n'est pas endetté, et on a des projets.
Oui.
Et un projet, notamment autour de la prévention, qui va associer les sociétaires pour faire qu'on puisse encore mieux maîtriser, mieux piloter cette entreprise d'accord. d'assurance qu'est la Mutuelle des Motards.
Qu'est-ce qu'on pourrait envisager à 10 ans ou 15, 20 ans pour la Mutuelle des Motards? Qu'est-ce que ça va devenir?
Eh ben, que dans 10 ans, grâce à l'implication des sociétaires, notamment avec cette application spécialisée, vraiment personnalisée, eh bien qu'on arrive à maîtriser les tarifs, voire à baisser les tarifs, oui. à maîtriser les coûts de la réparation, les coûts des accidents, qu'on les maîtrise, et que demain, on soit capable de ne pas augmenter, voire même de baisser les tarifs, et être l'assureur le moins cher.
Oui, c'est ça.
Pour les deux roues.
Tu nous as expliqué qu'effectivement, il y a 43 ans, les concurrents, les autres assurances, ne connaissaient pas la moto. Hein. C'est pour ça que les tarifs étaient exorbitants.
Ils pensaient que c'était un risque non assurable,
voilà.
parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais nous, on savait ce que c'était que faire la pratique au quotidien. Et nous, on a réussi à trouver le modèle technique assurantiel pour pouvoir proposer des contrats d'assurance et qu'ils ne soient pas déficitaires et qu'on puisse être équilibré, qu'on puisse maîtriser les risques.
Oui, ben, très bien. Bah, écoute, je pense que. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
vraiment,
les auditeurs de Radio Campus, de Kikinkou
et Tupal. Avec une affection particulière pour Kikinkou et Tupal que l'on connaît depuis, très longtemps.
Depuis
même
40 ans, tu
à
vois.
L'époque, à l'époque, j'étais dessinateur au pavé dans la mare. Je faisais
des petits crampards
au pavé dans la mare.
D'accord, oui.
Donc, c'est comme ça que j'ai connu Kikinkou et Tupal.
Voilà.
Donc, j'ai beaucoup d'affection pour Kikinkou et Tupal et Radio Campus.
Bah écoute, je te remercie pour cette interview, Patrick. Et puis, bah écoute, maintenant, on va aller peut-être se manger un petit pain.
Je crois, voilà. Nos réunions se terminent toujours par le pot de l'amitié un peu amélioré. Et dans le Nord, c'est bien amélioré.
Oh, okay.
Voilà, donc la miche, on va tous les deux aller.
On va y aller, voilà. Merci, Patrick.
Spirit.
Retour avec Christophe. Christophe Silman qui nous propose chaque mois un aperçu du sommaire du Moto Magazine. Et là, on va parler de celui d'avril.
Oui.
Mais alors, je voudrais quand même avant d'enchaîner sur le sommaire du Motomag d'avril, vous donner une petite info. Suite à notre émission de la semaine dernière avec Jean-Paul Le Croton, qui est le président de la confrérie des vieux clous. Voilà, donc le prochain rendez-vous informel mensuel de la confrérie des vieux clous change de lieu et il se tiendra dimanche 12 avril, donc ça veut dire la semaine prochaine, à l'estaminet de la Bonne Franquette, 97 rue Léon Bosquet à Marquis, donc sur le parking situé sur le côté gauche, sur le côté de l'église. Il n'y a pas de gauche, non. Oui, sur le côté de l'église.
En fait, vous visez le clocher.
Face à l'estimation. Oui, parce qu'apparemment, il faut être très strict sur le parking et pas mettre les motos n'importe où. Bon, donc ça va se passer de 10h, je rappelle, de 10h à 11h55. Donc je rappelle, la Bonne Franquette, rue Léon Bosquet à Marquis. Voilà. Alors attention, cet établissement est une adresse très fréquentée pour le déjeuner. Il sera donc impératif qu'à 11h55, les locaux intérieurs soient libérés pour que le personnel puisse dresser les tables pour le service du déjeuner. Voilà, et merci à vous et à tous. Voilà, très bien. Donc, on rappelle, ce rendez-vous informel, ça change de lieu, parce que le bistrot où ça se passait les mois derniers a fermé. Donc, on se retrouve donc à l'estaminet de la Bonne Franquette, 97 rue Léon Bosquet à Marquis.
Oui, alors la confrérie des vieux clous, on les connaît bien, parce que si vous avez raté le salon d'Oiscal, où vous auriez pu rencontrer Jean-Paul Le Croton et puis évidemment tous ses adhérents de l'association, et ben vous pourrez les rencontrer à Marquis. Alors il faut rappeler où c'est Marquis quand même. C'est à l'ouest de Lille,
oui,
voilà, entre Lille et Labassé,
voilà.
Bon, au bord de la RN41.
Si vous écoutez Campus à Marseille, si vous voulez venir faire un petit tour, Marquis, voilà.
Voilà, alors justement, alors si vous ne savez pas où c'est Marquis, est-ce que la Mayenne, vous savez où c'est?
Oui, moi je sais.
Ah, toi tu sais.
Moi je sais, alors Jean-Yves, je ne sais pas ici, c'est...
T'es hors concours.
Si, c'est au sud de tout.
Alors, on a parlé de la Mayenne dans les précédentes éditions, vous vous souvenez? Avec donc l'épopée du deux roues, l'exposition donc qui a été montée avec Jean-Luc Guignard, qui a exposé pendant 6 semaines, qui a reçu 20 000 visiteurs quand même dans la Mayenne. Fallait le faire.
Il fallait le faire, parce que c'est quand même pas un département très fréquenté par les motards.
Il ne doit pas y avoir 20 000 motards dans la Mayenne.
Oui, mais non, il n'y a pas 20 000. Non.
Mais les gens venaient plus loin.
Parce que quand tu vois que le salon de Douai fait 40 000 sur deux jours...
Concours. Ouais. Et celui de Lyon dont je parlerai tout à l'heure, sur 4 jours, ils font 187 000 visiteurs.
Oui.
On ne joue pas dans la même cour. Mais simplement, pour rappeler le caractère exceptionnel de cette exposition, et donc 450 machines, mais pas que des motos, des vélos, même des avions qui ont été présentés, et puis surtout la mise en scène. Et c'est là où Jean-Luc est très fort. Alors, le nom vous dit peut-être rien, mais si vous étiez adepte de Pécancourt, vous l'avez forcément croisé avec les reconstitutions qu'il faisait des bouclards. Enfin, c'est un décorateur de films.
Oui.
D'ailleurs, il loue ses motos pour des films. Vous retrouverez donc toute la description en fait de cette exposition, parce que malheureusement, vous ne la verrez plus. Elle s'est terminée là au début du mois de mars.
Ah oui, c'était une exposition éphémère.
Voilà, 6 semaines. Oui. Mais si vous avez l'occasion de passer par la Mayenne, eh bien, Montflour.
Vous pouvez toujours aller à Montflour.
Et le vœu de Jean-Luc et de sa fille, puisque sa fille reprend le flambeau, c'est d'ouvrir un musée. Et là, ils sont en recherche de local. Alors, si vous connaissez la Mayenne et si vous connaissez un local, contactez Jean-Luc.
Voilà.
Merci, le message est passé. Alors, je profite donc effectivement printemps des motards pour revenir un petit focus sur les salons qui se sont déroulés. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Oiscal. Plus proche de nous encore, on a eu Douai. Et ça tombe bien, on y a fait de belles rencontres. Et donc, je voudrais vous faire écouter cette rencontre. Christophe, bonjour. On est sur le salon de Douai, la 3e édition. Et puis au détour des stands, j'ai croisé Philippe Guillaume. Alors Philippe Guillaume, tout le monde le connaît, puisque si vous lisez Moto Magazine, on ne voit que lui. Philippe Guillaume, journaliste. Et donc, qui est là et qui est notre invité donc, sur le plateau de Radio Campus, qui quincoule l'émission des motards. Philippe, bonjour.
Bonjour Christophe.
Donc très heureux de te trouver. Je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre.
Absolument.
On n'a pas eu l'occasion. Et donc... Tu expliquais que tu étais en en repérage régional. Explique-nous.
En fait, si tu veux, il y a quelque chose qui est important, c'est de garder le contact avec les réalités. Je pense que c'est valable dans tous les métiers, et plus encore dans le métier de journaliste. Et c'est vrai que la presse moto, c'est très sympa, mais tu as parfois tendance à être un peu enfermé en haut de ta tour d'ivoire. C'est-à-dire que, effectivement, tu as des moments de vie qui sont très sympas vu de l'extérieur. Tu voyages, tu essayes des motos, mais tu es un peu coupé de la réalité. Et le fait d'être dans un salon, de rencontrer des gens. Toi, je suis rentré, j'ai fait 10 mètres et j'ai déjà rencontré 4 personnes
que je
connaissais ou avec qui j'avais des choses à dire. Et nous, on avait communiqué par mail auparavant et c'était intéressant de se rencontrer là et de prendre la température de ce salon et du public.
Alors, tu sais, nous, on fait de la radio, donc c'est du son, mais on aime bien la presse moto. Et on a eu l'occasion donc, de faire deux émissions, une consacrée au dossier de la presse en général, avec toute l'histoire de la presse, et une particulièrement sur la fabrication du magazine.
Oui.
Et donc, justement, il y a des sujets que vous traitez. Alors, vous êtes une petite équipe. Vous êtes,
c'est un peu une tendance malheureuse de la presse en général et de la presse moto en particulier, c'est que les équipes se réduisent pour des questions de diffusion et de budget. Et c'est vrai que Motomag, en réalité, on est une quinzaine de salariés. Des gens qui produisent vraiment du contenu, on est 3, 4, 5, plus la vidéo, plus les réseaux. Et ça prend du temps.
Oui, puis tu me disais que tu avais une activité aussi d'écriture pour d'autres supports.
Alors, donc... ils ont eu l'intelligence de me laisser un peu travailler à côté, parce que j'ai un côté un peu hyperactif. Donc, depuis 12 ans, je fais tous les essais du magazine Young Timer Moto. Mais c'est intéressant et ça bénéficie aussi à Motomag, parce que notamment pour les vidéos, ça me donne un réseau de collectionneurs et de propriétaires de motos anciennes. Moi, j'ai une passion particulière pour ce que j'appelle les nanars, c'est-à-dire que la moto qui s'est vendue à 4 exemplaires, le truc que personne ne connaît. Je ne sais pas quand sera diffusé ce petit programme, mais l'émission de vendredi dernier, elle porte sur la Yamaha YX600 Radiant, le truc que personne n'a jamais vu.
Improbable.
Et quand moi je découvre ça, mais je saute de joie.
Alors oui, tu sais qu'on fait donc tous les mois le sommaire de Moto Magazine, et effectivement, je ne manque pas de rappeler les vidéos, puisque vous écrivez pour un magazine, mais vous êtes aussi producteur de vidéos.
Oui.
Et donc, on prend toujours plaisir avec Axel à regarder un peu votre challenge dans les salons, je pense à Barcelonnette.
Oui, oui, hein, là-bas, le fameux GS Maître. Tu sais que ça, c'est l'idée qui est sortie. Parce qu'en fait, les meilleures idées se trouvent à la machine à café et pas dans les grandes réunions qui n'en finissent pas.
Et ça fait bouche.
Ça, c'est arrivé entre le café et le croissant le matin. Parce qu'on voyait des mecs avec des motos incroyables, équipés comme des aventuriers. On se disait, mais est-ce qu'ils sont venus de Grenoble en remorque et qu'ils ont sorti la moto il y a 100 mètres, ou est-ce que c'est des vrais aventuriers? Et on va essayer de les piéger et les faire avouer en fait la supercherie. Et en fait, c'est eux qui nous ont piégés.
Parce tout à fait.
Globalement, on est tombé sur des types qui avaient un rapport à la moto. Alors moi, si tu veux, je mets pas de notes. Il n'y a pas de vrai moteur, il n'y a pas de faux moteur. Moi, dès que tu mets un casque et que tu roules une fois par an ou tous les jours, pour moi, c'est bienvenue dans la famille. Il n'y a vraiment pas de jugement.
Alors,
mais on a trouvé des gens qui revenaient du Cap Nord, qui faisaient le tour de l'Europe, qui a fait 40 000 bornes en 4 mois. Tu fais,
je me souviens, j'en avais parlé.
Bravo.
Et donc, on aura le plaisir de vous accueillir, l'équipe. Alors, toi, puis tes collègues, pour justement vous faire découvrir dans le Nord comment on vit la moto.
Ah bah avec
des gens qui collectionnent, qui restaurent, qui font des exploits même,
oui.
Puisqu'on en a un de notre association qui est dans le livre Guinness des records.
Oui.
J'en dis pas plus, vous le découvrirez quand tu viendras nous voir. Donc, un peu de teasing. On est en train de préparer ça, mais on entendra à nouveau Philippe Guillaume sur les ondes et on aura plaisir à vous recevoir et à vous faire découvrir le Nord.
Et moi, ça m'a toujours fasciné parce que même si c'est la première fois que je suis là, je lis la presse aussi parce que je me nourris de ça depuis que je sais lire. C'est en fait la ferveur motocycliste qu'il y a dans le Nord, alors que, c'est pas vous faire injure, vous le savez, c'est peut-être pas les meilleures routes du monde, c'est peut-être pas le meilleur climat du monde, mais malgré tout, la passion de la moto est absolument incroyable ici.
Oui, oui, il y a eu quand même des sujets dans Moto Magazine sur la côte d'Opale.
Oui.
Les Ardennes, c'est pas très loin.
Oui.
Les Pays-Bas aussi.
Oui, oui.
Bon, et puis il y aura bien d'autres donc à découvrir.
D'accord.
Merci Philippe.
De rien, avec grand plaisir.
Et au plaisir de vous recevoir.
Merci de votre invitation.
Oui. Alors, retour au salon de Lyon, parce que dans les propos de Philippe, on évoque la pratique de la moto et tous les styles. Et le salon Lyon avait cette particularité, justement, d'être accessible à tous. C'était un véritable parc d'attractions. Il y avait 155 000 mètres carrés à découvrir sur 4 jours. Pratiquement, vous pouvez prendre un pass pour passer les 4 jours. En une journée, c'est quasiment pas possible de tout voir. Et donc, la moto, dans toute sa diversité sportive, utilitaire, artisanale, aventurier et même électrique. Et vous verrez, dans la séquence suivante, un témoignage donc, d'un lecteur de Moto Magazine qui en dit long sur la pratique de la moto.
À tout de suite. Get my message and practice what I tell you. Stay away from Jim Miller and the lies that people sell. Cause I just found out that she left town.
Sommaire du MAG du mois d'avril, c'est avec Christophe Silman. Oui. On parle d'une vie de motard. C'est normal, un peu dans Motomag. Hein.
Tout à fait. Je rappelle que chaque mois, vous pouvez envoyer vos photos, vos presque dédicaces anciennes. D'ailleurs, c'est assez curieux. Là, c'est une rétrospective complète d'une vie de motard. Donc, je vous le livre. Il est publié intégralement. Je vais essayer d'être dynamique. 40 ans de Brel. Cette année, mon permis moto fête 40 ans, 4 décennies au guidon, à sillonner route et chemin, ici et là, pas une semaine sans moto, qu'il vente, qu'il neige, même parfois pour aller bosser, chercher le pain ou un bol d'air. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie à l'époque d'être un véritable motocycliste? Au début, je suis un gamin comme les autres, je lis des BD, je tourne à vélo dans mon quartier avec des morceaux de boîtes de camembert dans les rayons pour faire un bruit de moteur, et je ne fous rien à l'école. Je devais avoir 13 ou 14 ans, installé sur la banquette arrière de la RCS familiale, sur la route du retour de vacances d'été, lorsque nous sommes fait doubler par une bande de motocyclistes sur de grosses bécanes chargées.
Ça, c'est dans un bouquin, ça.
Oui.
C'est Sylvain Tesson.
Alors, je me souviens, comme si c'était hier ou avant-hier, dans mon esprit de gamin, je me suis dit, ce sont des potes qui vivent ensemble leur trip. Fasciné par cette image de mec et nana libres, sur de grosses bécanes chargées de bagages et par le son de leur moteur. C'est ce jour-là où j'ai eu cette envie, ce but ultime, celui d'être un motocycliste avec des potes. La même année, je recouvre les murs de ma chambre de posters de bécanes, j'écoute de la musique métal, j'achète une mob, je quitte le collège pour aller travailler, histoire de financer mon projet. Et à 18 ans et 5 minutes, j'obtiens le Graal, mon permis. Après 3 ans de mobylette, me voilà donc sur une moto et j'écoute toujours du métal. Je commence à fréquenter les magasins le samedi, puis les bars. J'achète toutes les revues de bécane. Je me fais des potes, des vrais, des blousons de cuir et des bottes. Alors, ce n'est pas tout à fait comme dans les films. Hein. J'ai vite compris que le petit monde des motocyclistes n'est pas si différent que le reste du monde. On n'y croise pas que des gens qui brillent par leur loyauté. Et tout au long de ma vie de motocycliste, j'ai eu l'occasion de le constater, hélas. Mais l'univers de la moto m'a apporté aussi tout ce que j'ai aujourd'hui, une passagère qui m'a toujours accompagné, une carrière professionnelle en grande partie dans le milieu de la moto qui m'a permis de réaliser tous mes rêves, de voyager aux USA et même ailleurs, et ce n'est pas rien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui peut rendre ce sujet intéressant ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'en regardant dans le rétroviseur de ma vie, je réalise finalement que l'idée de départ s'est peu à peu transformée à la longue, à légèrement bifurquée, ce qui est certainement très normal. Mais l'image de départ demeure, celle où tout commence, nourrie par mon idéalisme, partager les mêmes aspirations, une bande d'amis lancée sur leur bécane vers l'horizon. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables, avec qui on a partagé des moments magiques. Une vie entière ne suffirait pas à les remercier. Tous ces moments effacent presque les mauvaises expériences, les personnes toxiques et opportunistes qui n'épargnent pas cet univers-là non plus. Ce qui est finalement très étrange, ce sont les codes que beaucoup s'infligent dans un milieu qui prône surtout la liberté. On t'inscrit très vite dans une case, une branche, une catégorie. Et si t'en bouges, tu es exclu. Bizarre. Le choix, faire un choix. Toujours aussi bizarre. À mes débuts dans ma vie de jeune motocycliste, il y avait forcément les revues moto. J'étais fan de récits de voyages, de motos de rassemblement, de motos transformées, préparées, des courses à l'autre bout de la terre et des reportages dans les usines d'assemblage des constructeurs, les artisans qui restauraient de vieilles machines. Alors oui, ce sont les revues qui me vendaient le style de ma future moto. En même temps, les magasins de moto de ma ville étaient tellement tristes à mourir que la presse moto était pour moi la seule fenêtre sur ce monde de liberté. J'ai donc alterné routière, trail sportif, custom toutes ces années, nourri par mes coups de cœur du moment. Libre, rester libre, coûte que coûte. Mais c'est surtout lors de mes premiers voyages que j'ai compris que la moto est un formidable outil pour voguer vers l'ailleurs. Il suffit de charger sa moto pour être déjà en voyage. C'est encore aujourd'hui un réel bonheur. Je n'ai pas fait de grands voyages à l'autre bout du monde, mais il suffit de quitter sa région pour en découvrir une autre, rien que ça, et je me sens pousser des ailes à chaque fois. De nouvelles routes, de nouveaux paysages et de nouvelles rencontres. Le bonheur. Si c'était à refaire, je repasserais mon permis, puis j'achèterais une moto, quelle qu'elle soit ou presque. Et fort d'une première vie, j'éviterai juste les baltringues qui m'ont cassé les bielles dans la précédente pour profiter plus encore de ce vent de liberté qu'on adore. En attendant, je vais continuer à vivre ma vie de motocycliste au guidon de ma vieille bécane, avec la même joie qu'il y a 40 ans et quand le paysage défile devant moi. Et quand j'apercevrai un petit bonhomme à l'arrière d'une voiture qui me regarde avec un large sourire, je continuerai à lui faire un grand signe. Laurent. Alors, il a un pseudo, Walter Bouin. Je suis allé voir, il fait aussi du vélo. Voilà. Alors, c'est exceptionnel.
C'est pas son nom ?
Pardon ?
Walter Bouin, c'est pas son nom ?
S'il s'appelle Laurent. On lui demandera.
Non, parce que à la fin de ce petit article, c'est pas un article, l'histoire, quoi.
Voilà, tout à fait.
C'est signé Walter.
Ouais. Donc, j'ai trouvé intéressant parce qu'on retrouve dans son propos quand même quelques traits de ce qu'on aborde ici régulièrement dans la vie de motard. Et donc, dans la même rubrique, photos, coups de cœur et courrier des lecteurs, je relève aussi celui de Marc, qui n'est pas abonné, et qui dit « J'achète régulièrement votre revue, bien que j'apprécie qu'elle soit un peu trop parisienne. » Et donc, effectivement, c'était un peu le propos en demi-teinte là qu'on échangeait tout à l'heure avec Philippe. Et il nous gratifie donc d'une photo de lui en 1973, prise à Lille. Donc voilà, petit clin d'œil à la région. Et puis deux autres informations, aussi diverses que variées. Alors ça, c'est pour votre sécurité. si vous passez à Libercourt,
n'allez pas à Libercourt.
Faites attention, casque d'âne chaque mois oui, alors c'est dans Motomag. 30, hein, oui. On vous rappelle effectivement les villes où il y a lieu de faire attention. Et donc là, un carrefour en plus sur une rue très passante. Je me demande si c'est pas celle où il y a eu récemment un accident malheureusement dramatique. Et donc un carrefour qui a été repeint. Mais repeint complètement.
Ils sont pas avares sur la peinture. Hein.
Voilà, tout à fait. Alors, attention, prise d'angle, freinage,
ah oui.
On est par terre.
Hein. On est par terre.
Ah bah oui, là, la photo a été prise effectivement.
Par, apparemment, il y a une priorité à droite.
Par un temps
bah, dans la photo. Hein.
Absolument. Donc, casque d'âne, ça veut dire qu'à la suite de ça, on espère que Libercourt va prendre les mesures, tout au moins avec les services...
Il faut qu'ils grattent la peinture.
compétents. Et puis, dernière information, championnat du monde du cri de la mouette. Alors, vous me direz, mais... qu'est-ce que ça a à voir avec la moto ? Bah, rien du tout, mais c'est amusant. Donc, effectivement,
et c'était à Dunkerque.
On y apprend, et c'est parce que c'était à Dunkerque que je vous en parle. Hein. Alors déjà, leur dire qu'on ne dit pas les carnavaliers... Bon, on dit plutôt les carnavaleux. Maintenant, carnavalier, c'est peut-être plus parisien.
C'est des Parisiens.
Voilà, c'est Parisiens qui disent ça. Bon,
70 000 carnavaleux qui s'étaient réunis aux alentours du Mardi Gras ce dimanche 15 février. Et donc, c'est une femme, Laurie Duo, alias Maître Mouette et Chandon. Hein, ça ne s'invente pas. Elle est huissier de justice. Hein, qui a gagné...
C'est un métier particulièrement drôle.
Elle doit se libérer le week-end, voilà, sans doute.
Elle se défoule le week-end.
Elle fait la mouette.
Et voilà. Et elle a succédé à Michel Ponawet.
Bon, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec la moto, mais c'est rigolo. Quoi.
Voilà, c'est dans la rubrique vite lu, et on parle également du 50e et de la 50e édition de l'Enduropal. Enfin bon, je vous laisserai découvrir. C'est une petite descente de texte qui est toujours amusante à découvrir.
Got you fooled by a master man. Breaking my fortress, you're about to live.
Bon, Christophe, tu vas nous parler de l'histoire d'un mec qui a eu 47 ans le 16 février 2026.
Voilà, 46 plus 1. Donc, je vous demandais tout à l'heure ce que vous inspirez 46. Alors, effectivement, 46, une superbe photo d'un pilote en course avec le numéro 46. Ça ne peut être que Valentino Rossi. Au passage, d'ailleurs, sur la boutique de Motomag, vous pouvez acheter un bouquin consacré à la carrière de ce pilote exceptionnel et qu'il le reste, puisqu'en fait, outre qu'il ait été champion du monde moto en 125, en 250, 500 et en MotoGP, 9 fois quand même, excusez du peu, il continue aujourd'hui de briguer des podiums. Alors, plus tout à fait dans la même catégorie, puisqu'il conduit maintenant une BMW M4 GT3 Evo. Et donc, il participe à des compétitions dont les 12 heures de Bathurst en Australie, dont il a fait un podium 3e place. Mais ce qui est impressionnant, c'est de le voir là en course, qui n'est pas une course en fait. Il est juste à l'entraînement avant le prix de Sepang, et donc avec Bezecchi et Banaya, où il prend 2 secondes. Simplement sur une moto préparée, mais simplement pour le fun, quoi, pour rester dans la course, et donc sur un circuit, le circuit de Mandalika en Indonésie. Et si je vous parle de Valentino Rossi, c'est qu'aujourd'hui, il continue à courir donc au volant de voiture, et qu'il a une carrière exceptionnelle. Je vous rappelle, il a 47 ans, hein. Alors, vous savez qu'il a commencé la moto à 3 ans sur des mini motocross, qu'il est passé aux cartes à 6 et il a tenu la dragée haute comme ça pendant des années. Et on reparle de Valentino Rossi à l'occasion d'un article consacré donc à Denez. Denez qui a une cinquantaine d'années, je crois, cette année, et qui a eu malheureusement des périodes compliquées et qui aujourd'hui repart avec des nouvelles bases. Et là, on interroge donc son directeur qui nous explique que justement les pilotes font partie. Alors ils ont peu de pilotes, mais Valentino Rossi en fait partie. Et donc les combinaisons, on les a vues à Douai et également à Lyon, les combinaisons des pilotes sont testées et en quelque sorte portées par les pilotes. Donc en l'occurrence, les inserts titanes dans les combinaisons de Rossi font partie des partenariats qui sont noués avec les marques. Et donc Valentino s'est impliqué dans nos produits et notamment dans les innovations qui sortent encore cette année, trois innovations avec les brevets qui vont à la clé de la marque Denez. D'ailleurs, il dit de Valentino, il continue d'avoir son immense expérience pour se préoccuper des équipements que portent les motards, ce qui en fin de compte sauve des vies. Alors au niveau de la stratégie des marques, on parlait hors antenne là justement des marques premium que constituent les motos de Harley et Indian qui se tirent un petit peu la bourre. Il faut savoir qu'à la tête d'Indian est arrivé un ancien de chez Harley. On évoquait la baisse des tarifs chez Live Warrior qui vient de baisser de 10 000 euros le prix de ces motos électriques.
Incroyable ça, Christophe. 10 000 euros.
Qui était tarifé à 25 000 euros l'année dernière et qui passe à 15 000 euros.
Je comprends pas
euros.
Parce que les gens qui ont acheté cette moto électrique il y a un an, ils l'ont payé 22 000, c'est ça ? 22 000 ? 25 000 ?
Oui, alors ils ont élargi leur gamme. Donc effectivement, maintenant, ils ont une gamme. Je viens de vérifier sur leur site. Ils ont une gamme qui commence à partir de 12 840 euros. Alors, je n'ai plus le nom du modèle. Donc celle-là n'existait pas. C'est une diversification pour essayer d'avoir un prix d'appel. Mais c'est effectivement cette moto qui était vendue 25 000 euros. Aujourd'hui, elle est vendue 10 000 euros moins cher. Donc ceux qui ont acheté au prix fort, et là j'ai regardé des annonces, on trouve des motos de 2 ans qui sont vendues plus cher que le prix des neuves. Donc, bon, voilà. Alors, dans le même ordre d'idée, Harley a fait le choix aussi d'aller élargir sa gamme vers l'entrée de gamme, ce qui n'avait pas dans les années récentes. Alors que Indian, à contre-emploi, lui, reste en premium. Et donc, ils veulent absolument rester sur des modèles, des grosses machines, des baggers, des toureurs, et les accessoires et l'équipement. c'est le choix. Vous avez un article qui est consacré effectivement à ce sujet, alors que sur le marché, on le voit bien dans les salons, la stratégie des marques chinoises qui attaquent de toutes parts et donc qui obligent finalement les marques à ajuster leurs tarifs, et c'est le cas de Suzuki. Et donc vous avez page, il faut savoir que l'année dernière, CF Moto a vendu plus de motos que Suzuki. Et donc Suzuki ajuste complètement ses tarifs, qui baissent en moyenne entre 700 et 2000 euros, ainsi qu'avec des tarifs promotionnels sur certains modèles, donc que vous découvrirez en page 20 de Moto Magazine. Donc vous voyez, c'est un grand chamboulement dans la stratégie des marques, tant en équipement qu'en concession. Et donc vous aurez ces articles consacrés donc à Indian, à Suzuki et à DNS que vous pourrez découvrir dans le MAC d'avril. Voilà l'ami.
Très bien, merci. Après, on parlera de, alors, des essais, hein, les roosters, les sportifs. La oui. Monster Ducat aussi, hein, ça ouais. C'est tout dans le Motomac d'avril. Hein.
Voilà, je vous ferai le petit inventaire de revue de presse de l'ensemble des machines qui vous sont présentées pour terminer la séquence. We'll be right back.
Christophe, avant de parler des essais hein, dans ce Motomag d'avril, je voudrais redonner l'information, le rendez-vous informel hein, et mensuel de la confrérie des vieux clous change de lieu. Il se tiendra dimanche 12 avril, donc dimanche prochain, à l'estaminet de la Bonne Franquette, 97 rue Léon Bosquet, à Marquis, sur le parking situé sur le côté de l'église, face à l'estaminet, de 10h à 11h55. Attention, cet établissement est une adresse très fréquentée pour le déjeuner. Il sera donc impératif qu'à 11h55, les locaux intérieurs soient libérés pour que le personnel puisse dresser les tables pour le service du déjeuner. Merci à vous et bonne balade pour dimanche prochain. Donc, je vous rappelle, l'estaminet de la Bonne Franquette. Pas beau ça, Luc ?
Et il voulait pas de l'eau à côté ?
Non, non, bah, pour l'instant, ils vont se contenter de la Bonne Franquette.
Il pleuvra peut-être ce jour-là.
C'est grave. Toi, voilà, Jean-Paul était avec nous dimanche, oui, l'émission dimanche dernier, et donc finalement, ça a répondu à l'émission. Il cherchait un endroit pour se réunir. Voilà.
Bon, alors, les motos à l'essai et les présentations. Donc, du côté de Ducati, vous avez page 38, la Desert X, le premier trail de Ducati qui avait été lancé en 2021. Je vous rappelle que le designer, c'est un Français, voilà, qui se refait un moteur et donc qui est remplacé par le V2 de 890 cm3 de la Multistrada. On ne change pas la puissance, 110 chevaux, on ne change pas le couple, 92 Nm, mais on a 70% du couple dès les 3000 tours. Et donc, minutes, et vous retrouverez ça, page 38 de Motomag. La Monster, Il Monstro, diraient les tifosi. Vous trouverez ça donc en page 60 et suivante. Vous pourrez également, alors 33 ans de Monster. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs dans une vidéo que vous a préparée Philippe Guillaume, dont on parlait tout à l'heure. Donc sur la chaîne Un apéro avec Motomag. Donc à découvrir également.
Ça vous rend qu'elle ressemble plus beaucoup à l'original quand même.
Ah bah oui, mais c'est l'évolution. Hein, voilà. C'est ça. Autre trail, puisqu'on parlait de la Desert X, chez Kawasaki. Kawasaki, donc, qui sort la KLE 500, donc, qui est pétrie de bonne qualité. Elle a un seul défaut, c'est effectivement son tarif par rapport à la concurrence chinoise. Donc, on verra comment le public l'accueillera. Et donc, vous pouvez la découvrir pour 7 399 € en page 48 de Moto Magazine. Donc, le nouveau trail de Kawasaki.
Pour le même prix, tu as un 800 chinois.
Absolument.
Avec toutes les options possibles inimaginables.
J'osais pas le dire, mais Luc l'a dit. Alors là, on boxe dans une autre catégorie. On passe dans les grosses routières custom en particulier. Donc Harley-Davidson qui nous sort donc deux modèles, la Strite Glide Limited et la Road Glide Limited. Alors bon, là, il faut déjà avoir le portefeuille bien garni. Bon, après, vous pouvez l'acheter en LOA, mais bon, on avait eu l'occasion d'évoquer. Hein, bon, on ne va pas faire la promo de Harley-Davidson. Mais en tout cas, c'est un concentré de technologie, de mécanique, le meilleur du confort. Si vous êtes amateur, alors il faut reconnaître qu'elles ont de la gueule. Hein. C'est le summum en matière de moteur, hein, les modèles CVO. Et donc, bon.
Ah, puis c'est confortable et ça roule. Hein,
ah, bah, ça, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. Alors, par contre, j'ai lu quand même dans le commentaire des propriétaires, les chromes, c'est plus ce que c'était. Hein. Attention, il faut les entretenir parce que même ces motos-là, malheureusement, les chromes, ils sont piqués très rapidement.
À plus de 35 000 €.
Je me souviens que Daniel, qui faisait partie de notre équipe, le disait quand il était avec cette moto. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est passé à Indian. Et ça tombe bien, la page d'après, c'est Indian qui nous présente la Chief Vintage. Enfin, c'est Moto Magazine, plutôt Axel, qui nous présente l'Indian Chief Vintage.
Elle est belle. Hein.
Pour célébrer, effectivement, les 125 ans. Alors, tumultueux, hein. Effectivement, Indian, c'est sa création, mais il y a eu des péripéties pendant la vie de cette marque. Et donc, une très belle Indian actuelle, mais vraiment une copie de l'ancienne. Alors, vous ferez votre idée. C'est en page 80, que je ne dise pas de bêtises, 83, 84 et suivantes. Donc, les nouveaux modèles Indian. Et puis, enfin, vous pourrez voir également une présentation consommateur des modulables. Alors, je sais pas, vous roulez avec des modulables ou pas? Non, pas spécialement.
Modulables.
Des casques.
Des casques modulables.
Ah, oui.
Bon,
oui.
Voilà.
Des casques, oui. Moi, j'aime pas parce que c'est plus lourd qu'un intégral classique.
Bah, c'est plus lourd.
Alors, c'est plus lourd, sauf que là, justement, ils sont allés chercher les carbones.
Ouais, donc, ouais. Ah, bah là, c'est plus léger, là.
Oui, non, normalement.
Mais c'est plus cher.
C'est plus léger, mais j'ai vu qu'il y en avait un qui avait une coque unique.
Oui.
Hein, donc ils ont un seul moule, et donc effectivement pour les gens qui ont une petite tête, porter un gros casque, c'est peut-être pas forcément le... Oh là là là, mais attendez, il chauffe le moteur. Et puis pour terminer, en rubrique tourisme, un voyage où je suis quasiment certain que personne d'entre nous parmi les auditeurs mettra les pieds, en Chine.
Hein.
Chine. Alors déjà, le journaliste, il est chinois,
il est suisse.
Il est suisse et il est retourné là-bas avec une équipe de quatre copains, photographes en particulier. Et donc, ils ont loué. Alors, j'ai essayé de voir. Forcément, ils roulent sur des machines chinoises. Hein, alors, QG Motor, Cov, je ne sais pas, ou Vogue, ou CF Moto. En tout cas, des trails. Et donc, à la lecture, on nous parle du Tibet. Alors, c'est le côté du Tibet qu'on ne connaît pas, forcément. Hein, parce que déjà, pour aller rouler là-bas, il faut être bien titré avec son passeport et ses autorisations divers et variés. Donc, article un peu exceptionnel, quand même, hein, quant à la destination. Voilà.
Tout le monde sait que tu es un peu branché électrique.
Oui.
Je pensais que tu allais parler de cette nouvelle Honda, là, la WN7. Tu l'as pas vue dans Motomag?
Alors, je l'avais effectivement prévu de l'annoncer. Je l'ai passé parce qu'on était un peu pressé.
Tu sais, parce que là, on rentre en zone rouge.
Ben, voilà, tu vois. Oui, j'avais raison.
Alors, ils disent pour et contre. Il y a toujours à la fin de l'essai.
Oui.
Alors, la ligne. Alors, la ligne.
C'est bien moche. Ouais.
Moi, je trouve que vraiment, c'est moche. Non, ils ont été payés pour dire ça. C'est pas possible. Alors, et la finition, hein, peut-être. Hein, voilà. Et puis, alors, j'ai vu aussi autonomie 140 bornes.
Oui, mais
140 bornes.
Le scooter.
Faire, hein, 140 bornes, hein.
Le scooter que j'avais, que j'ai acheté il y a presque 20 ans, que j'ai réussi à faire rouler 12 ou 13 ans, il avait une autonomie pas très loin de ça. Oui. Bon, mais on l'achète pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'est du périurbain.
Bon. Oui.
C'est pas avec ça que tu pars voyager.
Non, c'est pas possible. Bon, en Chine, c'est pas possible.
On la loue là-bas.
Oui, l'émission se termine. Merci Christophe, hein, pour ce sommaire du magazine d'avril. Voilà, je rappelle. Merci Jean-Yves. Et merci là, d'être passé nous dire un petit bonjour.
J'ai pris la place de Jean-Yves.
Et voilà, très bien, merci. Et forcément, on remercie qui?
Laurent.
Allez, à dimanche prochain. Bye.